Ah là c'est bon.
Attends, c'est vrai.
Jet FM 91.2.
Bonjour.
Alors bonjour.
Bonjour.
On est arrivé au musée.
Bien.
C'est parti pour la visite.
Exactement, ça c'est une super question en fait.
Bonjour Sylvie, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement?
Bonjour ta famille.
Comment ça
vous êtes toujours sur Jet FM 91.2 avec la Colo Radio.
On va la refaire.
Ouais.
Colo Radio.
Bonjour. On fait partie de la Colo Radio de Jet FM, une colonie de vacances pour apprendre à faire de la radio. On va vous présenter ce qu'on a vécu pendant cette semaine. Vous allez entendre des interviews, des fonctions sonores et d'autres choses, animées par Ali, Tanfali, Younes, Karamba et Ahmed. À toi l'honneur, Tanfali.
Au musée, on devait aller voir l'exposition Intelligence, mais on a d'abord aperçu des météorites qui provenaient du Chili.
Ça va sur les météorites? Alors après, il y a des météorites, vous allez en voir aussi beaucoup dans la vitrine qui est à côté. Il y a quelques temps, il y a 4 ans, il y a eu une expédition qui est partie d'ici au muséum, pour aller au Chili, dans le désert d'Atacama, pour aller chercher des météorites. Ce sont des jeunes un peu plus vieux que vous qui sont partis, je suis parti avec eux aussi, chercher ces météorites dans un désert. Donc pour vous dire quand même que le muséum de Nantes, et météorites, il y a une belle histoire. Ça va? Est-ce que vous êtes prêts pour découvrir maintenant l'exposition Intelligence?
Ensuite, on est allé voir l'exposition Intelligence. Le médiateur scientifique du musée nous a expliqué tout ce qu'il y avait dans l'exposition. On a aussi fait des prises de son, des interviews et des micro-trottoirs. Personne numéro 1.
Est-ce que vous êtes déjà venu au musée?
Merci de votre participation.
Merci, bon courage.
Merci.
Stop.
Vous avez interviewé vers 9 personnes.
C'est bien.
C'est sur Jet FM 91.2, ça sera dans la semaine de septembre, ça va sortir.
Okay. Ah, à la radio du coup?
Oui.
Vous êtes dans votre radio, c'est ça?
Oui.
À la fin de la journée, nous sommes allés dans une pièce fermée au public. Dedans, il y a plein d'animaux empaillés. Comme un blaireau qui défend son petit et une grenouille dans un bocal qui ressemble à Jabba le Hutt. C'est une collection qui a été léguée par un homme riche qui était passionné de naturalisme. Maintenant, je vais passer le micro à Karamba et Ahmed pour qu'ils vous parlent de la galerie des animaux.
Coloradio.
Bonjour, nous sommes Karamba et Ahmed et nous allons vous présenter ce qu'on a découvert dans la galerie des animaux.
Jonathan nous a montré que certains animaux marins avaient des capacités spéciales et détenaient des records. Il y a d'abord le poisson lune. Saviez-vous que son record est de pondre 1 million d'œufs? Mais savez-vous pourquoi? Le poisson lune vit pas mal à la surface de l'eau. Il est donc exposé aux prédateurs qui mangent ses œufs. Du coup, il en pond plein pour être sûr qu'il y en ait au moins une centaine ou des milliers qui survivent.
Une autre anecdote, si vous nagez en mer et que vous voyez un aileron qui ressort et qui se balance de gauche à droite, n'ayez pas peur. Ce n'est pas un requin, mais un poisson lune. En effet, le poisson lune n'a pas de nageoire. En parlant de requin, connaissez-vous le requin lézard? Il a le record du temps de gestation. Il peut garder son bébé dans son ventre pendant 3 ans et demi. Comme ça, quand son bébé naîtra, il sera déjà prêt pour survivre.
Savez-vous qu'il existe des poissons droitiers et gauchers? En effet, certains poissons qui viennent de naître ont leurs deux yeux de chaque côté. Mais en grandissant, leurs yeux se décalent soit vers la gauche, soit vers la droite. Ceux qui ont leurs deux yeux à droite sont des droitiers. Ceux qui ont leurs deux yeux à gauche sont des gauchers. Ils ont cette spécificité car ils vivent dans les profondeurs et cela leur permet de repérer plus facilement leur proie tapis dans le sol.
Et maintenant, une petite pause musicale. À toi, Younes.
Salut, moi c'est Younes. Je vous propose d'écouter Bad de XZ Tentation pour cette première pause musicale. J'ai choisi ce morceau car je l'aime bien et pour moi il est un peu imaginaire et il fait rêver comme le monde marin. Bonne écoute.
Yeah.
Vous êtes sur JTFM 91.2 et on vient d'écouter Bad de XXXTentacion. Vous êtes toujours dans l'émission Color Radio et je laisse la parole à mes camarades pour la suite de l'émission. On va causer intelligence.
Eh oui, Younes, avec Caramba, nous allons vous présenter l'exposition du Muséum d'Histoire Naturelle qui était sur l'intelligence. Il y a encore quelques années, on pensait qu'il n'y avait que l'homme qui réfléchissait, mais les scientifiques ont prouvé qu'il y avait d'autres formes d'intelligence, comme l'intelligence animale, l'intelligence végétale, collective et artificielle. C'est ce qui explique cette exposition.
C'est quoi la chose la plus intelligente?
Ah ben justement, tu vois, c'est ce que je disais au tout départ, c'est qu'on ne peut plus maintenant dire qu'il y a quelque chose qui est plus intelligent qu'autre chose. Maintenant, il n'y a pas un être qui est plus intelligent qu'un autre. Nous, on n'est pas plus intelligent qu'un autre être sur la planète. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes formes d'intelligence. Par exemple, les fourmis, elles ont une intelligence collective et sociale qui est très développée, peut-être plus que la nôtre d'ailleurs. Le blob, par exemple, qui est juste à côté, là, que vous voyez aussi représenté, eh ben, lui, c'est encore d'autres formes d'apprentissage qu'il va avoir et d'autres formes d'intelligence qu'il va avoir. Et à chaque être, on va pouvoir déterminer des caractères dits intelligents. Et c'est ça, en fait, qui évite maintenant de classer les êtres vivants en fonction de leur intelligence. En fait, on enlève la pyramide, on enlève nous au-dessus, et c'est beaucoup plus simple, vous verrez, de fonctionner comme ça.
Jonathan nous a montré et expliqué toutes les formes d'intelligence présentées dans l'exposition. En commençant par les végétaux, ils peuvent communiquer entre eux, mais pas à trop grande portée. Il y a une histoire qui s'est passée en Australie. Des herbivores comme des antilopes, biches et gazelles et des chèvres qui mangeaient du bois d'acacia. Puis les arbres se sont envoyés des signaux par des ondes pour se prévenir et en un an, ils ont muté pour injecter du poison pour se protéger. C'est vraiment incroyable.
Puis ensuite, nous avons vu que certains animaux, notamment les insectes, avait une intelligence collective, comme les termites. Caramba et Tanfali vous en parleront tout à l'heure. Ce qu'on a compris de l'exposition, c'est que tout être vivant est intelligent, mais de différentes façons. L'intelligence ne correspond pas à la taille du cerveau. Il y a d'ailleurs des êtres vivants sans cerveau et intelligents comme le blob. Nous, avec Tanfali et Younes, ce qu'on a préféré dans l'expo, c'est le blob. Mais le blob, c'est quoi ?
Et le blob, c'est comme un truc qui viendrait de l'espace, genre un alien. C'est ni un champignon, ni un animal, ni un végétal. Ça n'a pas de cerveau, mais ça peut apprendre. C'est même hyper intelligent.
Alors, il y a aussi des histoires qui tournent autour du blob, notamment le fait que c'était aux États-Unis. Une femme a trouvé en fait un blob chez elle en 1973, je crois que c'est un truc comme ça.
Je sais.
Ouais, dis-moi.
Elle avait appelé la police, ils ont tiré sur le blob.
Ouais.
Ils ont appelé les pompiers, ils ont tiré des eaux sur le blob.
Oui.
Et le blob, en attendant qu'elle a appelé tout, le blob il s'est multiplié.
Bah ouais, en fait, elle a essayé plein de trucs pour se débarrasser du blob, y compris des produits chimiques. Ça n'a pas marché. Alors, il est devenu un petit peu, à un moment donné, pas très bien. Et après, il a retrouvé un second souffle, on va dire ça comme ça, une nouvelle vie. Il est reparti de plus belle. Elle a appelé les pompiers, comme tu dis, et effectivement, ils ont aspergé d'eau et ils ont disséminé, ils ont arraché carrément le blob en plein de morceaux. Sauf que le blob s'est reconstitué, s'est remis à se développer. En gros, presque indestructible, invincible. Et donc c'est au moment où justement elle ne savait plus quoi faire et ça commençait vraiment à l'inquiéter parce qu'elle ne savait pas ce que c'était, que le blob a disparu. Alors c'est aussi le côté un petit peu, on pourrait presque penser un peu au côté extraterrestre en fait dans l'histoire. Le truc, un être qui arrive et qui repart comme ça sans laisser de traces, un peu étrange.
On l'appelle le blob car c'est un truc bizarre. En 1958, il y a eu un film sur une matière visqueuse et tueuse qui s'appellerait le Blob.
Dave, Doc Hallen's been killed.
Doc Hallen, what happened?
It's over at his place. You gotta come now.
Oh, wait a minute, Steve. Tell us what happened.
Well, I'm trying to tell you. Now, this thing had killed the Doc.
But what was it? Stop with it, kid.
But it's kind of like a... It's kind of like a mass that keeps getting bigger and bigger.
From then on, there's no stopping the Blob as it spreads from town to town. It's indestructible. It's indescribable. Nothing can stop it.
This town is in danger.
How can it be stopped? Mob hysteria sweeps one city. Before long, the nation and then the world could fall before the blood-curdling threat of the Blob.
Vu que c'est un truc non identifié et qui peut inquiéter, ben on lui a donné ce nom. Mais en fait, son vrai nom, c'est le Physarum polycephalum.
Le Blob peut être très très grand. Le plus grand fait l'équivalent de 132 terrains de football. Et en plus de ça, c'est immortel. Enfin, on ne sait pas vraiment si c'est vraiment vrai. Ce qui est sûr, c'est qu'il peut ne plus avoir de nourriture et sécher, mais peut revivre, s'il y a de l'humidité et de la nourriture à proximité.
C'est comme s'il était en hibernation.
On appelle ça la sclérote.
Le Blob, ça n'aime pas le sel, mais il est capable de créer une couche protectrice pour s'en défendre et attendre sa nourriture. Bref, il s'adapte. Il y a plusieurs types de blobs. Le plus connu est jaune.
Ça, c'est un blob, d'accord ? Il y en a environ 1000 espèces de connues. Je dis connues parce qu'on le connaît depuis pas très très longtemps, finalement. Et on imagine que le blob, eh ben, il pourrait y en avoir bien plus d'espèces encore sur la planète. Et ils n'ont pas tous cette forme-là, jaune. Parfois, ils sont marrons, orange. Parfois, ça ressemble plus à une espèce de... Alors, on l'appelle des fois caca de lune, par exemple, ou crotte. Voilà, donc c'est vraiment un truc un peu visqueux. C'est pas toujours très, très joli à regarder. Mais ça a toujours le même fonctionnement, en tout cas au niveau de la cellule, au niveau de la division de la cellule.
Jonathan nous a emmenés en forêt pour trouver un blob. Mais nous n'en avons pas trouvé, car la température était trop élevée. Si vous voulez en découvrir un, regardez sur les souches d'arbres dans les zones humides.
On peut le bouger. On peut le bouger, ça.
Ah, mais il y en a deux, ouais.
Il y en a deux.
Non, vous n'avez pas remarqué. Il y a un blob.
Non, il y a rien.
Donc là, il y a plein de formules.
Il n'y a pas de blob.
Sous celui-ci, il n'y en a pas.
Et le deuxième.
Le deuxième, il est un peu plus gros, hein.
Ouais, je pense qu'il y en a un.
Blob.
Ah, puis il est. Ah non, il n'est pas attaché.
Il y a du champignon, hein.
Ouais, là, il y a du champignon. Après, il y a peut-être des choses intéressantes à voir.
Il n'y a pas de blob.
Coloradio.
JTFM 91.2.
Après avoir visité l'exposition Intelligence, on a été interroger les visiteurs du muséum pour leur poser quelques questions, notamment sur le blob. On écoute et on se retrouve après.
Est-ce que vous êtes déjà venu au muséum ?
Avant, aujourd'hui. Oui, je suis déjà venu dans ce musée.
Celui-là ?
Oui.
Non, jamais.
Moi, non.
Oui, une fois.
Non, c'est la première fois.
Oui, mais pas celui-là.
Je suis déjà venu, moi, oui.
Non, c'est la première fois.
Moi, je suis déjà venue, j'étais toute petite. Toi, Célia, c'est la première
fois.
Non, ce sera la première fois pour moi.
Pourquoi vous venez au muséum ?
Pour voir un peu tout ce qui s'est passé avant nous.
Bah parce que j'y trouve des choses qui m'intéressent et des choses que je trouve belles.
Parce que je voulais voir des squelettes de dinosaures.
Et moi, je l'ai fait pour accompagner mon petit cousin.
Parce qu'on a vu ça sur Internet et on a trouvé que c'était intéressant.
Apprendre de nouvelles choses.
Qu'est-ce que vous préférez au musée ?
La salle Intelligence.
Dans la collection habituelle, j'aime beaucoup regarder les pierres. Et après, des fois, il y a des expositions temporaires, comme celle-là, que je trouve très intéressantes. Et il y en a, la dernière fois que je suis venue, j'étais venue aussi parce qu'ils expliquaient que les dinosaures avaient des plumes, tu vois. Je savais pas.
Le vivarium était joli, et tout ce qui est squelette et d'animaux anciens.
Les animaux, les félins et les oiseaux.
Les roches sédimentaires plutoniques. Volcanique et métamorphique.
Moi, la partie sur l'intelligence avec le cerveau et tout ça.
La variété des oiseaux.
J'aime beaucoup la partie minéralogie en bas avec les fossiles, tout ça. J'aime beaucoup.
L'exposition sur l'intelligence.
Surtout les ardoises.
Que pensez-vous du blob ?
Du blob ? Comment dire ? C'est une seule cellule, mais avec des milliers de noyaux, c'est ça ?
Oui.
Et je dois en penser quelque chose ? Ben, j'en pense rien, c'est formidable.
Du blob ? Eh ben, justement, j'aurais bien aimé mieux comprendre un peu comment il était fabriqué. Mais voilà, ça, j'ai pas trouvé cette information-là.
C'est un être surprenant.
C'est trop bizarre. C'est marrant.
C'est assez impressionnant de savoir qu'on ne sait pas vraiment encore ce que c'est et dans quelle catégorie le placer.
Du globe, alors c'est-à-dire...
Le globe dire... Où ça, il y a un globe ?
Non, le blob.
Ah, le blob.
Je trouvais que c'était intéressant.
Bah, je connaissais pas du tout. Je pense que quand je vais me balader en forêt, je vais essayer de regarder un peu plus attentivement.
Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui en venant au musée ?
Qu'est-ce que j'ai appris ?
C'est surtout moi qui ai appris des choses parce que c'était la première fois que je venais, donc il m'a expliqué des choses.
Et façon de communiquer des bactéries.
Beaucoup de choses.
Bah que la nature, elle est compliquée. J'ai appris des choses avec la machine de Turing. Il avait déjà prévu que l'intelligence artificielle, au début des années 2000, commencera à prendre le pas sur l'intelligence humaine.
On a appris tellement de choses.
J'ai appris que les éléphants, ils pouvaient entendre l'orage de très très loin.
Qu'il y avait plusieurs types d'intelligence.
Bon, merci pour votre participation.
De rien, merci. C'est sympa votre truc.
Si vous voulez entendre, c'est sur JTFM 91.2.
Ah, parce que je vais être une star en plus. Oui. Ah d'accord, ah, bah, c'est génial.
J'espère que vous avez aimé le micro-trottoir et j'espère que mon exposé sur les dauphins et leurs techniques pour trouver leur nourriture va vous plaire. Alors, le savez-vous ? Les dauphins, pour se nourrir sans s'abîmer le rostre, c'est assez, utilisent une éponge. Pour ceux qui ne le savent pas, le rostre est comme son museau. Pour le savoir, cette expérience a été menée sur une population de dauphins sauvages. L'organisme sert de protection pour le rostre quand il gratte les fonds marins pour trouver sa nourriture.
Le savez-vous ? Les orang-outans prennent des feuilles d'arbres et crient dans ces derniers pour déformer leur voix. Puis elle devient alors plus grave afin de tromper son prédateur pour qu'il pense qu'il est plus imposant et qu'il serait une mauvaise idée de l'attaquer.
Savez-vous qu'il y a un crabe boxeur ? Les crabes utilisent parfois des anémones comme moyen de défense. Ils les mettent au niveau des pinces pour se défendre contre les prédateurs comme l'outre, le phoque, mais aussi pour attaquer ses proies. Cette façon de faire lui a donné son surnom de crabe boxeur ou pom-pom girl. L'anémone aussi en profite et se nourrit grâce au crabe. Ça fait une bonne équipe. Mais en fait très insolite, deux crabes se mangent entre eux. Cela fait donc deux des cannibales. Comme on le voit, il n'y a pas que les humains qui utilisent des outils. Et il n'y a pas que les humains qui travaillent en collectif non plus.
Et il y a des insectes, notamment, qui utilisent ce qu'on appelle des intelligences collectives ou sociales. Vous en connaissez ? Est-ce que vous en connaissez ? Les insectes sociaux, qu'on dit sociaux.
Les fourmis.
Les fourmis, ouais. D'autres ?
Les abeilles.
Les abeilles, ouais.
Les termites.
Les termites, ouais. Il y a énormément d'insectes ou d'animaux sociaux. Et ces animaux-là, ces êtres-là, ont comme trait de caractère souvent ce qu'on appelle une intelligence collective ou sociale. Et c'est le cas, on peut approcher là-bas, vous allez voir, le plus criant. Vous allez voir, ça c'est assez génial.
C'est la termitière.
C'est la termitière.
Voilà, certains animaux travaillent en collectif, comme l'a très bien dit Jonathan. Nous, ce qui nous a surtout intéressé, ce sont les termites. Savez-vous par exemple que les termites savent construire un système de chauffage et de climatisation ? Elles font aussi des termitières aussi hautes que 3500 termites superposés, ce qui est égal à 7 mètres de hauteur. Il y a des centaines de galeries et des loges dans les termitières.
La hiérarchie des termites est bien organisée. Il y a la reine, la plus importante, comme dans les nombreuses colonies d'insectes. Puis il y a le roi, qui n'est pas dans toutes les colonies. Puis les soldats, qui sont là pour protéger la reine. Et enfin, les ouvrières, qui se chargent de la construction et du ravitaillement en nourriture. Nous allons maintenant vous faire écouter une fiction sonore qui nous a été inspirée par les termites. Bonne écoute !
Hunter, Hunter.
tenteur.
La vengeance des termites.
La vengeance des termites. La vengeance des termites. La vengeance des termites.
Salut, moi c'est Kader. Cet été, avec mes potes, il nous est arrivé un truc incroyable. On habite à Nantes et cet été, plein de termites sont apparus dans notre quartier. Quand nos parents disaient que c'était pas bon pour les maisons, on a une bonne excuse pour aller les détruire.
C'était trop cool. On a mis des pétards dedans, on les a noyés sous des seaux d'eau. On a mis des bons coups de pied pour détruire les fondations. Bref, l'éclate quoi.
On n'avait pas idée qu'elle pouvait s'organiser pour se venger, mais c'est pourtant ce qui s'est passé.
Une nuit, des fourmis sont venues dans notre chambre et nous ont fait boire un nectar pour nous transformer. Quand je me suis réveillée, j'étais devenue tout petit et j'étais transportée sur le dos d'une fourmi jusqu'à une termitière que nous avions détruite en partie.
Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'hallucine ! Qu'est-ce qui se passe ?
Je voyais mes potes attachés eux aussi. Certains criaient. Je me suis dit que c'était un cauchemar, mais quand ils m'ont balancé sur le sol, j'ai eu tellement mal que j'ai compris que tout ça, c'était réel. J'étais terrifiée.
Aïe, lâchez-moi !
Lâchez-moi !
Moi, j'étais déjà dans une cellule quand j'ai vu Luca, Hugo, Mathis et Kader arriver.
Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce délire ?
Les termites nous ont annoncé que nous étions accusés de
oui,
terrorisme et que nous allons être jugés.
J'espère qu'il ne va pas nous tuer quand même, il ne ferait pas ça.
Des termites soldats sont venus nous chercher pour nous conduire au tribunal. Là, on a vu une énorme termite entourée de soldats. On a compris que c'était la reine.
La reine va s'exprimer.
En détruisant notre termitière, c'est notre maison que vous avez détruite. Nos chambres et nos garde-manger ont été ensevelis par votre faute. Nous déplorons la mort de 10 000 ouvrières. C'est une honte! Heureusement pour vous, la nurserie a été épargnée et les enfants ont pu être sauvés. C'est la raison pour laquelle nous serons cléments et vous ne serez pas exécutés. Cependant, il faut vous racheter. Qu'avez-vous à dire pour votre défense?
Nous nous sommes défendus comme nous le pouvions. Après tout, nous sommes des enfants et nous n'avons pas réfléchi. Cela ne fait pas de nous des criminels.
Le jury s'est réuni et vous condamne à des travaux forcés. Vous serez libéré de notre termitière quand tout sera reconstruit. Vous allez être transféré avec nos ouvrières.
Nous sommes partis avec les ouvrières à la cavité centrale. C'est d'ici que toutes les galeries aboutissent.
L'un des tunnels était condamné. C'était celui qu'on avait détruit la veille.
Allez les gars, c'est parti.
Allez, on est
bien, c'est pour
nous. Nous avons beaucoup travaillé pour construire la termitière. Les chambres des soldats, les dortoirs des ouvrières.
C'est la chambre royale, la plus luxueuse, qui nous a demandé le plus d'efforts.
Grâce à eux, on a appris à faire un système de chauffage et de climatisation. C'était incroyable.
Petit à petit, la termitière a retrouvé son allure d'avant. Nous sommes même devenus amis avec nos collègues de chantier qui nous ont appris plein de trucs sur les insectes.
On a fini par aimer travailler avec les termites et on était contents d'avoir réparé notre erreur.
Une fois les travaux terminés, la reine nous a reçus.
J'ai décidé de vous libérer. Nous allons vous raccompagner à la surface pour vous faire boire l'antidote qui vous rendra votre taille normale. Vous pouvez rentrer chez vous.
Nous avons retrouvé nos parents complètement inquiet et affolé.
Papa, maman, papa,
on leur a raconté notre incroyable aventure et tout ce que nous avons découvert.
On a aidé à la reconstruction. Nous ont mis un petit nectar.
Après, nous ont libérés. C'était incroyable.
Malheureusement, nos parents se sont mis en colère contre les insectes qui nous avaient capturés.
Malgré nos protestations, ils ont décidé d'appeler en urgence un exterminateur.
Jean-Claude Frécy.
Mon Dieu, un exterminateur. Mon Dieu, un exterminateur.
On a alors eu une super idée pour prévenir nos amis les termites.
On a fait appel aux abeilles.
Leur mission, prévenir toute la colonie avant l'arrivée de l'exterminateur.
Grâce à l'aide des abeilles, presque toutes les termites ont pu être sauvées. Malheureusement, les produits qu'il a utilisés ont fait de nombreuses victimes.
place spéciale.
Nous sommes à Nantes avec notre envoyé spécial. Une maison a été mystérieusement détruite. En fin d'après-midi, la maison de Jean-Claude Pristine s'est tout simplement effondrée. L'enquête montre que la charpente de la maison de Monsieur Pristine a été entièrement dévorée par des termites. Le mystère reste entier.
La vengeance des termites.
Une histoire écrite, interprétée et bruitée par
Caramba dans le rôle de Kader,
Younes dans le rôle de Mathis,
Tanfali, je joue le rôle de Amir,
Ahmed dans le rôle de Hugo.
Moi c'est Ali et j'ai été Luca pendant la fiction.
On est sur JetFM 91.2 et c'était notre fiction. Et les gars, vous pouvez raconter comment on a fait?
On a fait soit c'est comme dans le thème, même thème, l'intelligence, ou soit c'est autre chose.
Et après, on a décidé de faire sans les termites.
On s'est d'abord raconté toutes nos idées et après on a choisi celles qu'on voulait.
Ensuite, on a écrit une histoire à base de nos idées.
Et après, on a commencé à écrire l'histoire. Et comme Jonathan nous avait dit, ça prenait du temps à faire une termitière. C'était difficile, on a appris sur ça le thème.
C'est grâce à Jonathan qu'on a pu réaliser ça avec les termites. Parce qu'on ne savait pas grand-chose des termites, à part leur préjugé de manger tout le temps du bois, d'être des maisons en bois.
Merci Jonathan.
Et après, du coup, on a choisi des noms, on a fait un vote. Après, on a choisi des noms et on se les a donnés pour faire les personnages. Et après, on a commencé à débuter l'histoire.
En fait, pour faire du son, on a fait des bruitages. Pour l'eau, on a coulé dans un verre. Pour les pétards, on a fait exploser papier bulle. Ouais. Et on essaie de trouver des bruitages à un moment. On a fait avec ce qu'on avait.
Moi, j'ai bien aimé un moment, on devait faire des chuchotements pour faire comme si on était dans une prison et tout ça. Et après, on a chuchoté et tout.
J'ai bien aimé les bruitages du chantier qu'on avait fait.
Aussi, j'aimais bien quand la partie du chantier, c'était un tout petit peu drôle.
Et derrière tout ça, il y a une morale. C'est on détruit une maison de termites, à la fin, notre maison va être détruite.
Et maintenant, une petite pause musicale. Cette fois, je vous propose d'écouter un opening d'un animé appelé Shingeki no Kyojin. Là, c'est celui de la saison 2 qui est trop bien. J'ai choisi ce morceau car ça me fait penser au blob parce que dans l'animé, il y a des géants. Et du coup, vu que le blob, il peut devenir géant, voilà quoi. Bonne écoute sur JetFM. Oh,
C'était la pause musicale de Younes, votre programmateur musical. On est sur Jet FM dans la Coloradio et je vous propose de retourner au muséum pour écouter Sylvie, la directrice adjointe du muséum, et Xavier, responsable technique adjoint, qui ont bien voulu répondre à nos questions. Vous saurez tout sur comment construire une exposition. C'est parti!
Bonjour Sylvie, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ?
Bonjour Tanfali, je m'appelle Sylvie, je travaille au Muséum d'Histoire Naturelle depuis un très long moment. Je suis responsable du service des publics.
Bonjour Xavier, pouvez-vous vous présenter ?
Alors bonjour, moi je suis adjoint technique au Muséum, donc je m'occupe de tout ce qui va être démontage et montage des expos temporaires. Et un peu tout ce qui va être autour de la technique des collections permanentes, dont électricité, lumière et matériel audiovisuel, multimédia.
En quoi consiste votre métier ?
Alors c'est assez vaste, hein, donc il va y avoir tout ce qui va être conseil dans la préparation des expos. Donc on va donner toutes les indications autour du bâtiment qu'on a. Et après, une fois que c'est lancé, nous, on va partir, hein, vous avez vu la salle d'expo, on va partir à nu de la salle et puis ça va être amener l'électricité pour faire marcher les différents modules où il y a des écrans, des ordinateurs. De là, on va repeindre les murs, mettre la moquette, installer les mobiliers qui nous sont livrés. Après, une fois que ça s'est fait, on va installer tout ce qui va être donc audiovisuel, les écrans, les ordi dans les mobiliers. Et après, au final, on va faire tout ce qui va être lumière de la salle d'exposition.
Pourquoi avoir choisi le thème de l'intelligence ?
Au muséum, on aime bien varier les plaisirs. Donc, on a eu une exposition sur les fourmis, on a eu une exposition sur les araignées, on a eu une exposition sur l'homme de Néandertal, on a eu une exposition sur les pierres précieuses. Et là, on avait envie d'avoir une exposition qui traite de plusieurs sujets à la fois des humains, des animaux, des plantes aussi. C'est ce qu'on appelle une exposition transversale. Et on avait envie de faire réfléchir en fait les visiteurs sur ce que c'est que l'intelligence.
En gros, vos expositions, elles sont insolites, mais elles sont toujours dans le thème.
Ah oui, 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 oui. Bien résumé. Insolites, parce que on veut effectivement montrer aux visiteurs des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Donc tu as raison, insolite. Et toujours dans le thème, parce qu'effectivement, on reste dans notre domaine, qui est le domaine scientifique. C'est-à-dire qu'on parle toujours de science, donc on est toujours dans le thème, dans le domaine. Tu as raison.
Comment s'est construite l'exposition ?
Eh bien, quand vous êtes venu l'année dernière, ça vous paraît très très loin, hein, c'était il y a un an, l'exposition, elle était déjà presque construite. C'est-à-dire qu'on avait écrit tout ce qu'on voulait dire dans l'exposition. On avait passé presque plus d'un an avec d'autres personnes, des personnes du Muséum de Nantes, mais des personnes aussi de l'Espace des sciences à Rennes, et puis des collègues au Québec, en interviewant aussi des chercheurs, comme là vous faites avec nous, vous venez nous interviewer, mais nous on a fait tout ce travail-là avec des chercheurs, avec des scientifiques qui travaillent dans les laboratoires, et on est allé leur demander, pour vous, c'est quoi l'intelligence ? On est allé voir un chercheur qui travaille sur les singes, par exemple, on est allé voir un chercheur qui travaille sur les animaux marins, on est allé voir une chercheuse qui travaille sur le blob, sur les animaux, d'autres qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Et on leur a posé cette question. Pour vous, c'est quoi l'intelligence ? Donc ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et aussi de faire une synthèse de tout ce que ces chercheurs nous ont appris. Et avec tout ça, toute cette matière scientifique, ensuite, on a construit un scénario. On s'est dit, bon, on ne peut pas ne faire qu'écrire des panneaux pour les visiteurs, parce que ça va ennuyer. S'il y a beaucoup, beaucoup de textes et d'écrits, ça va ennuyer les visiteurs. Donc on s'est dit, ben ça, on va le présenter d'une certaine façon, sous forme de jeu. On va faire un petit parcours qui permet aux visiteurs de rester toujours, toujours actifs. Donc ça a été une autre partie du travail. Et puis après, il y a toute la partie de construction technique. Et là, c'est des gens en particulier, des professionnels qui s'appellent des scénographes, qui travaillent pour créer tout l'univers, les couleurs, les meubles, etc. de l'exposition. Mais c'est long de construire une exposition. Ça ne se fait pas en 2 mois, ça ne se fait pas en 3 mois. C'est, là, nous, ça nous a pris plus de 2 ans, 2 ou 3 ans.
Pourquoi mettons en scène une exposition ?
Alors, c'est toujours pareil. Hein. Même si tu as quelque chose de très beau à montrer, si tu ne le mets pas en valeur, ça ne sert à rien, quoi. Donc, les mises en scène d'exposition servent à mettre en valeur qu'on veut dire et les objets qu'on va présenter.
Est-ce que c'était difficile de faire cette scénographie ?
Alors, au niveau montage, il y a eu pas mal de choses à anticiper. Vu qu'il y a beaucoup de meubles et beaucoup d'animations, on a eu beaucoup d'informatique et d'audiovisuel à prévoir. Donc, ce qui a été compliqué, c'est de prévoir toutes les arrivées électriques et les compartiments dans les meubles pour recevoir tout le matériel.
Merci d'avoir répondu à nos questions et passez une bonne journée.
Eh ben merci à vous et bonne émission.
Merci à vous tous et surtout bonne journée. Continuez bien, explorez bien le muséum.
C'est la fin de notre émission Coloradio. J'espère qu'elle vous aura plu. Avant de rendre l'antenne, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué et aidé à faire cette émission. Merci à Jonathan et au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. Merci au restaurant Le Carré des Services. Merci au ministère de la Culture d'avoir financé ce projet. Et enfin, merci à Laure et Clémence de Jet FM. Et tous les participants de la Coloradio, Caramba, Tanfali, Younes, Ali et moi-même. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Merci Ahmed, c'était vraiment très intéressant.
La science, c'est expliquer un truc inexpliqué pour le moment.
La science, ça sert à résoudre des problèmes.
C'est le savoir de l'humanité et c'est pour savoir comment sont faites les choses.
À découvrir à quoi servent les objets, les choses qu'on trouve dans la nature.
Ah, si vous rappelez le blob, comment on le repère ?
Ouais.
Comment ? Ouais.
Sous les souches d'arbres.
Sous les souches d'arbres. Donc regardez pas au-dessus, ça sert à rien.
C'est dégoûtant.
Oh.
J'aime pas les menaces.
Sans coque.
Coloradio.
Retrouvez l'ensemble des podcasts du Sonolab sur notre site au www.sonolab.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les ondes le mercredi et le dimanche à 11h sur Jet FM 91.2.